Vous écoutez le CaliCast, le premier podcast français sur Doctor Who.
Salut, salut et bienvenue dans le CaliCast épisode 111. Avec moi ce soir, même si c'est pour la première fois et d'ailleurs c'est très étrange, on enregistre en plein milieu de journée, Benjamin Martin.
Bonjour.
Voilà, qui est récurrent, hein. Quand je dis récurrent, c'est pas les toilettes. Voilà.
Merci.
C'est très drôle. Humour. Michel Da Silva. Michel.
Bonjour.
C'est pas un surnom, hein, Michel, hein. Voilà.
Mich.
Michou.
Ouais, oula. Faut s'arrêter là.
Et Dusty. Bonsoir, Dusty. Enfin, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va? Tout le monde va bien?
Tout le monde va bien.
Ça roule. Bon, alors, on va parler aujourd'hui de la nouvelle histoire de The Key to Time. On va parler d'une histoire avec des pierres, hein, de Stone of Blood, hein, les pierres, je ne sais pas comment dire ça, les pierres de sang.
Ouais,
les pierres sanglantes. Voilà.
Pierres de sang. Tu aurais appelé les pierres qui glissent.
Ouais. Les pierres bien faites. Bon. Mais bon, avant de parler de ça, nous allons d'abord commencer par les news.
Les news.
Les news. Alors, qui s'occupe des news aujourd'hui? Bah, maintenant, hein, c'est la grande habitude. C'est Dusty.
Ouais, alors, je suis pas grande.
Bah, si.
Mais l'habitude.
Ah, tu fais ma taille.
De par l'esprit.
Moi qui fais déjà 1m95. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news de Steve cette semaine?
Il n'y a pas beaucoup de news, mais il y a des news qui pètent, en fait. C'est cool.
Alors, elles font caca.
Ouais, c'est dégueulasse. Il y a un nouveau trailer pour la saison 8 de Doctor Who. Alors, donc, je rappelle que la saison 8 démarrera le 23 août sur BBC One. Et donc, il y a eu un premier trailer qui s'appelait Deep Breath. Et ils viennent d'en sortir un nouveau qui s'appelle Am I a Good Man. Je trouve que ça rend déjà le personnage bien intéressant. Donc c'est un peu comme le précédent, c'est-à-dire on a le 12e docteur à contre-jour avec le TARDIS qui explose derrière.
Bah, en fait, le second trailer, on va pas se mentir, hein, c'est le premier, sauf qu'au lieu que ce soit plein d'images, bah, c'est une vidéo.
Voilà, et puis il y a du son au milieu où
ouais,
il y a le docteur demande à Clara est-ce que je suis un homme bon. Alors là, moi, je trouve que ça c'est pas mal parce qu'on se pose la question du coup, est-ce qu'on est en train de revenir sur un docteur un peu plus sombre?
Le sixième docteur?
Ouais, le sixième.
Oh. Pourquoi
et,
pas?
Du coup, pour les images promotionnelles aussi, on voit quelques petits changements sur la console room. Avec,
oui, notamment au niveau de Photoshop. Oui, Photoshop.
Ils ont enlevé cet éclairage vert sous-marin et ils ont mis un éclairage orange qui est un peu plus
oui,
joli.
Un peu plus orangé, ouais.
Voilà, mais toujours plein d'escaliers. Je suis sûr qu'il y a toujours un hélicoptère en haut et ça, moi, j'aime pas, mais.
Non mais déjà, enfin après, j'espère que c'est pas juste un truc Photoshop quoi et qu'il y aura vraiment de la cette couleur quoi, parce que si finalement c'est juste pour l'affiche, ce serait embêtant un peu. Et on verra bien, écoute hein.
Ouais.
Quoi d'autre comme news?
Bah, puisqu'on est toujours dans le 12e docteur, donc il y a des premiers comics qui sont annoncés, alors qui cette fois-ci ils sont pas édités par IDW mais par Titan Comics. Donc il y a une nouvelle série qui avec donc le 12e docteur et Clara.
Les couvertures sont très jolies hein, par contre.
Ouais, hein, alors je sais pas si c'est des alternatives du premier, c'est ça?
Je ne sais pas. Par contre, c'est drôle parce que chaque semaine tu as de nouvelles couvertures pour la même histoire.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un classique dans le comics. T'as plusieurs couvertures alternatives. Donc, dans les écrivains, il y a Robbie Morrison, primé pour Yellow World. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait plein de trucs, là? Nicolas Dante, d'accord. Drantown. L'artiste Dave Taylor.
Faut voir que Dusty découvre en même temps ce qu'ils ont fait.
Ouais, non, voilà, il y a des trucs dans les news que je vous avoue que je n'ai pas lu en détail. Alors, pour des questions de droit, apparemment, il y aura pas de version papier pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Mais seulement une version numérique, à comprendre, Charles. Apparemment, donc ils ont précommande à partir du 19 juin, donc ça fait déjà une semaine au moins, et par contre, ils seront disponibles à partir du 1er octobre.
Donc, 1er octobre, ok.
Voilà.
Alors, encore la même question, parce que on en parlait pour les romans, le fait que aucun épisode de Doctor Who n'a été diffusé, donc la personnalité du docteur pas bien établie, vous avez peur de la qualité des comics?
Mais j'ai peur que ça reste soit très vraiment très généraliste, c'est-à-dire pas vraiment de réflexion sur le personnage.
Ok.
Ou alors ils ont eu, on leur a donné des indices sur l'arc et ce qu'allait devenir le docteur, quoi.
Ok.
Il y a aussi le fait, peut-être, c'était des histoires écrites déjà à la période du 11e docteur. Et comme là, il y a le 12e docteur, ils ont dû modifier. Et donc, tu vas avoir peut-être un 12e docteur avec la personnalité du 11e docteur.
Ouais, mais tu vois, t'as aussi un problème d'écriture de la voix du docteur. La façon de parler, tu peux la faire ressortir à l'écrit. Et ça aussi, je crains un peu, quoi, s'ils n'ont pas vu quel était le style réellement de Capaldi.
Ok. Petite. D'autres news, peut-être?
Ah, la news la plus importante.
Ah, bah oui! Ah oui,
il y a le retour de la Rani. Alors, elle revient en audio, donc je pense que vous savez tous que Kate O'Mara est décédée il y a un mois maintenant, peut-être un peu plus.
Un peu plus, ouais. Et je crois que on en avait parlé dans le Gallicast, mais je sais pas si dans la version qu'on a sortie, parce que il y a une version du Gallicast en hommage à la Rani qui n'est pas sortie, et j'avais demandé aux différents chroniqueurs ce qu'ils pensaient si la BBC faisait venir la Rani sous une nouvelle incarnation après sa mort. Et il y avait eu un débat justement en disant que pour certains ça allait être une insulte envers Kate O'Mara, d'autres que ça allait être une bonne chose, un hommage au personnage. Et finalement, quand on lit les justifications pourquoi est-ce qu'elle revient, c'est très intéressant. Peut-être Dusty, tu peux expliquer?
Pourquoi lorsqu'elle revient? Oui, parce qu'en fait, oui, c'est vraiment une volonté de Kate O'Mara qui, elle, déjà à l'époque, avait commencé à contacter Nick Briggs et Big Finish parce qu'il faisait déjà vraiment des trucs qui lui plaisaient, en disant j'aimerais bien revenir. Et puis, je pense qu'elle savait qu'elle était malade et elle a insisté auprès de Nick Briggs pour que si c'est pas elle qui le fasse, qu'il ramène quand même la Rani sous une autre incarnation. Donc, elle voulait vraiment que son personnage revienne, quoi.
Et qui va jouer donc la Rani?
Alors, l'actrice, c'est Siobhan Redmond. Moi, je vous dirais que je connais pas. Elle a fait j'ai perdu ma ligne.
Alors,
The High Life, Between the Lines, Smoking Room, Taggart et Holby City. Taggart, ouais, je connais.
Alors, je peux préciser quelque chose assez rapidement, c'est que j'ai des amis anglais qui eux connaissent cette actrice apparemment, et selon ce que j'ai cru comprendre, elle était, ça a l'air d'être une actrice assez effrayante dans son jeu d'acteur. Être très antipathique. Je pense que ça peut être une bonne chose.
On aura l'occasion de la découvrir, mais pas dans le rôle de la Rani. Au mois d'août, il y a une nouvelle série de 3 audios dans le Main Range qui sortent chez Big Finish avec le 7e docteur Ace et Hector Schofield. On est dans la série où Hector X s'appelle plus X. Donc bon, faut d'avoir. Mais donc elle joue dans le premier là qui sort en août qui s'appelle Revenge of the Swarm, qui est le retour de la crevette spatiale qu'on avait dans The Invisible Enemy, qui était un arc avec le 4e docteur et Lila. L'apparition de K9 d'ailleurs.
Ah oui, c'est bien cette histoire. Voilà.
Si vous avez l'occasion d'acheter cet épisode-là, donc qui sort fin août, je crois, Revenge of the Swarm, vous pourrez écouter Siobhan Redmond, mais qui elle sera dans ce cas-là pas dans le rôle de la Rani, mais ça permet de voir ce qu'elle donne en audio.
Ok, c'est à peu près tout pour les news.
Mm-hmm.
Ok, Benjamin, tu avais quelque chose à dire par rapport aux événements Gallifrance qui auront lieu pendant tout ce mois de juillet? Août,
oui,
dans ses vacances.
Tout à fait,
quoi.
Je voulais.
Vas-y.
Des événements.
Oui, il y a une petite musique derrière.
Oui, j'ai reçu un appel que je vais être obligé de répondre à plus tard.
Ok. Donc, ça ne veut rien dire.
Pour dire, oui, tu pourras couper ça au montage.
Non.
D'accord. Donc, il y a plusieurs galipiques ce mois-ci répartis à travers la France et l'Europe même. Nous avons le galipique de Paris le 20 juillet au parc de Bercy. Nous avons le galipique à Bruxelles, qui est, je sais pas où.
C'est drôle.
Pas Bruxelles, c'est en Belgique, hein, bien sûr.
Non, mais c'est, oui. C'est...
Voilà. Et nous avons le galipique de Lyon, qui sera le 27 juillet, je ne sais pas où non plus.
Parc de la Tête d'Or. Ah oui, tu veux dire les lieux précis? Je croyais que c'était une blague de merde, genre à Bruxelles, je ne sais pas.
D'accord, ouais.
Voilà, donc du coup, on pensait que c'était l'une de tes nombreuses blagues pourries. Oui, donc le pique-nique de Lyon, ville de Jean-Michel Jarre, sera au parc de la Tête d'Or, celui de Paris dans le parc de Bercy, celui de Bruxelles, dans une friterie. Je ne sais pas, peut-être, faut voir ça avec Marie de Vigne, hein, vous allez sur Doctor Who Classique, vous lui demandez, vous l'insultez,
sur le site de Gallifrance, tout simplement.
Voilà, tout simplement. Voilà. Merci, Benjamin.
Voilà, c'était vrai.
Donc voilà, ça fait 3 événements, comme ça, si vous êtes à proximité, n'hésitez pas à y aller.
On peut préciser pour ceux qui ne le savent pas qu'il y a des cadeaux à gagner. C'est un rassemblement entre fans du docteur.
Oui.
Et qu'on s'y amuse et qu'on rigole bien. Et il faut ramener sa bouffe.
Ouais. Voilà, en tant que pique-nique, vous pouvez ramener de quoi manger, vous pouvez m'emmener de quoi jouer. Là, je pense qu'on ne fera pas de bataille d'eau parce que celle de Nancy a été géniale.
Géniale.
Mais un tel désastre que tout le monde a eu la gastro pendant les semaines qui ont suivi.
La galigastro. Non, la bataille d'eau était tellement mémorable que des gens qui n'ont rien à voir avec nous sont venus nous photographier.
Quoi. Ouais, photographier, filmer, etc. Il y a même de, ouais, c'était absolument génial. Donc, ouais, l'événement de Nancy, c'est vrai qu'il a beaucoup, il a énormément marché. C'est absolument génial. Donc voilà, on remercie à tous les Nancéens ou Nancéiens.
Nancéois.
Pas les gens de Nancy. Nancéois. Non.
On peut parler de Manuel Herré aussi, non?
Ah oui. Non, c'est... non. Oui, parce que Benjamin a fait une blague. Attention, Dusty, toi qui ne l'as pas entendu, tu vas sans doute pleurer, et pas de rire, juste pleurer. Il y a une statue d'un mec qui s'appelle Emmanuel Herré, et on passa devant, sachant que c'est à l'entrée du parc, qui disait c'est le mec des centres. Les centres à Herré.
Non, moi, sérieusement.
Voilà. Voilà, et il l'a faite à chaque fois. Hein. Donc les gens ont eu le droit pendant toute la journée à cette blague. Voilà. Bon, n'allez pas vous suicider parce que là, ça va être l'heure du sujet de la semaine.
Oh putain.
De quoi? De quoi? Non, c'est pas le sujet de la semaine, non.
J'ai chaud.
C'est l'heure du sujet de la semaine, The Stone of Blood.
Le sujet de la semaine.
Le sujet de la semaine nous a rejoint entre temps encore une boucle temporelle, etc. Non, Jonathan était au Havre, en Normandie, ou à la ville de Wavre, en Belgique.
W-A-V-R-E.
C'est oui, au Havre, en Normandie.
Bon. Et je crois que c'est le coin le plus mal desservi de toute la Belgique.
Bon, donc il était au Havre, en Belgique.
À Dodane.
Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire.
À Dodane, en fait, je suis revenu à Dodane.
Donc Jonathan nous a retrouvés pour le sujet de la semaine consacré à The Stone of Blood. Tiens Jonathan, comme tu viens d'arriver et que du coup à mon avis tu n'as rien préparé, explique-nous l'histoire.
Alors, il va nous faire du thé aussi, non?
Explique-moi encore. Alors The Stone of Blood, c'est une histoire assez marrante puisque le docteur et Romana arrivent sur la Terre contemporaine en plein milieu d'un cercle de pierre et il découvre une scientifique qui est en train d'étudier ce cercle de pierre, enfin une archéologue exactement,
un peu bizarre
oui, et au même moment autour il y a des meurtres où les gens sont retrouvés aspirés complètement de leur force vitale. Et tout semble être lié à ce cercle de pierre et Romana a la mauvaise paire de chaussures.
C'est le plus important.
Voilà. J'ai bien résumé?
Oui.
C'est pas résumé, Gay France.
Oui. Ah bah.
T'as oublié K9.
Oui. Ah oui, K9, qui est là. Qui est utile en plus.
Ouais.
Moins utile que l'histoire précédente.
Pas trop, hein.
Non, The Stone of Blood pour moi, c'est une de mes histoires préférées. D'une part parce qu'elle est super kitsch.
Et tu aimes les cailloux, c'est ça?
Non, c'est pas ça, c'est que d'un certain côté, c'est vrai que c'est affreusement ridicule de voir trois pierres se balader dans la campagne anglaise.
Non, pas du tout, surtout qu'elles font très plastique, quoi. Même les pierres à Disney sont plus crédibles.
Non, mais tu rigoles, Thomas. Parce que quand ils ont mis ces trois pierres autour du cercle, et elles sont restées pendant un petit moment, et ben les gens croyaient qu'elle faisait partie vraiment du cercle de bière, ce qui fait qu'au bout d'un moment ils savaient même plus où quelles étaient les vraies, quelles étaient les fausses.
Celle avec écrit Made in China normalement.
Voilà, ça doit être ça. Non, mais d'une certaine manière elle fait super kitsch cette histoire parce que les trois pierres qui se baladent, c'est génial. Je dis, l'histoire du vaisseau extraterrestre qui est à côté est assez intéressante et l'effet spéciaux qu'il y a d'ailleurs dans
les épisodes. Elle est dans l'hyperspace.
Oui, dans l'hyperspace. Mais il y a un effet spécial assez couillu pour l'époque, je trouve, par rapport au vaisseau et le fait qu'on voie à l'intérieur.
On voit.
Oui, qu'on voit. Mais d'un autre côté, en fait, c'est typiquement le type d'histoire que Nigel Neal aurait écrit pour moi. Parce que je trouve qu'en fait...
Qui est Nigel Neal?
Ah, Nigel Neal. Ce Quatermass Experiment. Je voulais en parler, d'ailleurs. J'y pensais sur mon âne. Parce que Nigel Neal, c'est lui qui a écrit The Quatermass Experiment. 1, 2 et 3 et 4. je voulais repasser, je voulais du 4, qui n'a pas été produit par la BBC mais par ITV et qui est le plus sombre de des Quatermass parce qu'il finit hyper mal.
Et, alors Quatermass Experiment, si vous voulez, c'est une série qui a 10 ans plus vieille que Doctor Who.
Non, pas, et... ah oui, oui, 10 ans plus vieille, oui, effectivement, ah, oui 59.
Bah oui, enfin environ, quoi. Enfin, peut-être pas 10 ans, mais...
C'est voilà, l'ancêtre de Doctor Who, comme je voilà. le dis souvent. C'est ça qui a permis, en fait, Doctor Who indirectement d'être créé à la télé. Et dans Quatermass 4, il y a, en fait, c'est la fin du monde, quasiment, et il y a des gens qui... Il y a une secte qui s'est créée, je sais plus son nom exactement, et en fait, ils vénèrent des cercles de pierre, et à chaque fois qu'ils vont dans ces cercles de pierre, il y a une énorme lueur, et ils sont transformés en cendres. Et on sait pas exactement s'ils vont dans un vaisseau spatial ou s'ils sont tués. Et surtout si les extraterrestres sont dans le... Et en fait, je trouve qu'en fait, The Stone of Blood, c'est une histoire qui fait très Quatermass. C'est encore plus marrant quand on sait que Nigel Neal, en fait, a détesté Doctor Who et n'a jamais voulu écrire pour la série parce qu'il trouvait ça trop ridicule.
Ouais, parce que, bon, quand tu regardes Équateur, bon, c'est une autre histoire, mais par contre, par rapport à ce qui est de cette histoire, c'est vrai qu'elle a un côté très sombre, l'histoire des squelettes montrée comme ça. Si on remet dans le contexte de l'époque, c'était très effrayant, à mon avis, hein. Par rapport à
franchement, oui, c'est pour ça que j'aime bien cette histoire, c'est parce que, outre le côté kitsch, en fait, elle pourrait faire peur, je trouve. Parce qu'il y a des scènes qui sont plutôt pas gore, mais enfin, je veux dire, par exemple, le cadavre que le docteur découvre dans le vaisseau spatial qui est dans l'hyperspace, le fait que ces pierres sucent les gens comme des vampires, et puis surtout que
le... c'est vrai, t'as pas vu le même truc. Oui.
non, ça c'est la version porno, désolé. Non, mais par exemple, le fait que Romana se retrouve
attaché à côté d'un squelette.
Non, pas, oui, mais je veux dire, par exemple, poussée au bord du précipice, parce qu'elle pense être le docteur. D'ailleurs, je trouve que c'est le point clair de tout l'épisode, parce qu'elle a, elle a l'impression que c'est le docteur. On a aussi l'impression que c'est le docteur, mais il n'y a jamais d'explication, en fait. Mais qui c'était finalement?
Bah, le gardien noir.
Bah non, c'est les druides et la
ouais, déesse. Comme elle entend la voix du docteur, c'est pour ça que ça fait bizarre, en fait.
Bah, c'est une projection.
Oui.
Mais bon,
c'est qui a écrit le scénario.
A-t-on peut-être toute seule.
C'est en partie ça.
Mais elle c'est pas plus, les escarpins. Ah non, elle avait plus ses escarpins.
Oui, elle avait
plus ses escarpins. Et puis je trouve aussi que c'est la seule histoire où K-9 est réellement utile et je trouve qu'il a
The Pirate Planet, il était extraordinaire. Attends, tu as conduit une voiture tout seul.
Michel s'énerve. Tu viens d'énerver Michel.
Dans The Pirate Planet, il te conduit une voiture volante tout seul, il te combat un perroquet robot. Et tu tu trouves que dans ce qui soit, il est encore plus utile.
Non, en fait, j'ai mal dit mon truc, c'est que pour une fois, je trouve qu'en fait, le canine fonctionne. Parce que à un moment, il y a un effet qui est assez marrant. Ils avaient du mal à le faire rouler sur la terre, forcément. Donc, ils étaient obligés de lui mettre des plans de bois pour qu'il roule. Mais il y a un moment où il roule vachement vite sur la terre. Et les gens, ils se disent... Mais comment ils ont fait cet effet? En fait, ils l'ont juste accroché à une voiture. Et qu'il l'a tiré. C'est pour ça qu'il va si vite. Ok. Pauvre K-9.
Il y a un truc marrant avec K-9 aussi. C'est au début où Romana lui dit, il parle de tennis et elle lui dit, oh bah oublie, et il efface ses bases de données.
Oui, ça c'est très drôle aussi parce qu'il prend les trucs un peu trop littéralement.
Oui.
Ça, ouais. Je crois que des scènes les plus délirantes aussi, c'est quand le docteur admire la galerie de tableaux avec la tableau qui manque, où il y a De Vries qui présente ça c'est Lady machin, ça c'est Lady bidule, comme s'il présentait réellement le tableau alors que les tableaux ont été décrochés.
Oui.
je sais pas à qui on doit ça. Qui a fait le scénario d'ailleurs? Qui a l'affiche de ouverte?
Bon, j'ai perdu ma.
Ah bah voilà, bah bravo, Jonathan, c'est David Fisher, non? Bon bah Benjamin a dit David Fisher, donc c'est lui.
Bah c'est écrit sur l'affiche. Hein.
J'ai vérifié, mais oui, normalement oui, c'est David Fisher, parce que David Fisher c'est lui qui a écrit City of Death.
Ah, c'est pas comme s'il y avait plein d'erreurs sur les fiches Galifrance.
Il n'y a pas plein d'erreurs, on va tous les revoir.
Quel enculé.
Bref.
Faut donner un peu l'avis de Chalon.
Mais votre avis. Oui, je suis le seul à donner mon avis.
Alors l'avis de Dusty peut-être. Normalement, c'est Dusty qui a donné son avis en premier, hein, sauf que Jonathan est tellement galant qu'il a commencé par lui.
Mais personne ne commençait, alors moi je me suis dit, c'est à mon tour.
On n'a pas eu la place de parler, c'est bon. Bon, bref.
Moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup, en fait. À la fois, déjà, je le trouve flippant. Déjà, on retrouve de la magie, parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui ne sont pas expliqués. Effectivement, là, l'espèce de projection de l'image du docteur qui va faire tomber Romana. Comment le corbeau, enfin je pense que c'est par le corbeau que le docteur, enfin que Devrias a des informations sur le docteur, ce genre de choses. Et puis les pierres, moi je les trouve vraiment flippantes quoi. C'est des mobs qui étaient des méchants qui t'écrasent, des pierres qui se déplacent, qui sont immenses. Enfin, ça a le côté vraiment très 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 gros. Ça me fait un peu flipper comme les grosses boules blanches dans The Prisoner.
C'est vrai. À son kitsch, mais font leur rôle.
Mais après, la partie, moi, dans le vaisseau spatial, c'est rigolo, le côté procès avec le docteur avec sa perruque et tout ça, mais c'est la partie que j'ai trouvé un peu lourdingue, à la limite, quoi. J'ai bien aimé le côté cercle de pierre, druide, espèce de convent de magiciens, et puis le docteur qui va se faire sacrifier, en plus. C'était vraiment, moi, je trouve que c'était bien fait, quoi.
Je trouve que le coup du procès, pour moi, c'est là où on reconnaît vraiment le style Tom Baker, dans la façon dont il joue le procès, en fait.
Tout à fait.
Oui. Il en a rien à faire en fait.
Oui, et aucun autre docteur en fait l'aurait joué comme ça. Les autres, que ce soit Pertwee, Troughton, Hartnell, enfin tous les autres docteurs, pas peut-être Colin Baker, mais ça doit être propre au Baker, je pense. Ils auraient été plutôt sérieux face à la chose, alors que Tom Baker, lui, c'est vrai, il s'en fout, il sort une perruque comme ça de sa poche, comme s'il avait toujours une perruque pour les procès, pour être avocat.
Ça aurait été drôle de la revoir d'entrer à Love Time Lord.
Oui,
bon, quoique les cheveux de Colin Baker ressemblaient limite à ça.
Ouais, Tom Baker, c'est pareil, hein.
Je préférais quand il avait les cheveux un peu plus courts, d'ailleurs, Tom Baker, parce que là, du coup, ça fait plus trop bouclette, mais ça fait machin qui s'effondre.
Oh là là.
Parlons cheveux avec Dusty.
Après, les dents de Sylvester McCoy, les cheveux de Tom Baker.
Il y avait un moment, il y a eu un débat, un Gaïka, je me rappelle, où Jonathan te parlait de la coupe de cheveux de David Tennant, de la saison 2 à la saison 3.
David Tennant, il est trop évolue. Beau.
Mais non, mais c'est vrai, elle évolue et il a les cheveux plus longs.
Non, mais ça, c'est notre histoire. Benjamin, ton avis sur l'histoire, s'il te plaît, si tu as un avis.
Oui, j'ai un avis.
Oh.
C'est pas
et le voilà.
Oui, dépêche non plus, on n'a pas 8 heures de Gallica.
Oui, tout à fait. C'était une histoire qui était intéressante. Wow. C'est vrai que, comme dit Jonathan, il y avait un petit côté de film à la Hammer, mais sous-exploité, moi je dirais.
C'est pas la Hammer, Quatermass, c'est des remakes.
Non, mais le style gothique et tout ça, j'ai pas dit.
Ah oui, ça aussi.
Voilà, bon, merci. Et sinon, c'était quand même assez plat. Ça a du mal à démarrer, ça s'accélère.
Toi, t'as vraiment du mal avec Tom Baker, hein, c'est.
Oui.
Sa période. C'est quoi, c'est l'acteur que t'aimes pas ou c'est. Ou c'est
l'acteur et son interprétation du docteur, j'ai vraiment du mal. Oui.
Je te fais remarquer que David Tennant est basé sur Tom Baker pour certains trucs. Hein.
Oui, c'est plus le cinquième hein, quand même. Hein,
oui,
Tennant il s'est basé sur Tom Baker parce que c'est son docteur préféré. Et souvent les gens qui disent que le docteur préféré Tennant c'est le cinquième, non, c'est à cause de Time Crash et que c'est le docteur préféré de Moffat.
Ouais, parce qu'il fait quand même que David Tennant s'est bien gouré, hein, parce que, excuse-moi, mais Tom Baker, pour retrouver du Tom Baker, faut bien chercher, hein.
Ah oui, c'est carrément.
C'est dans le côté exubérant. Il joue pas à Tom Baker parce que c'est impossible de jouer Tom Baker. Le docteur,
ouais,
bah,
côté
vous voyez
exubérant,
là,
c'est le personnage du docteur, donc tous les. Enfin, c'est
oui,
débile.
Mais c'est plus. Enfin, c'est disons.
Tout est exubérant.
Il est quand tu regardes par rapport à Pertwee par exemple,
après c'est un autre sujet. Michel, tiens, donne ton avis s'il te plaît parce qu'on Michel n'a pas beaucoup parlé pour ce Gallicast. Bon, il s'est énervé un peu contre Jonathan. Mais à part
scandale.
Ça.
Alors moi je vais dire moyen, c'est pas un mauvais épisode, ça se laisse regarder. Il y a des trucs par exemple, dans The Operation Rebus, par rapport à...
The Rebus Operation.
The Rebus.
Pardon, je ne m'appelle plus les titres des épisodes. Romana, je l'ai trouvée antipathique. Je l'aimais pas. Dans The Pirate Planet, limite, je l'ai trouvée sympathique, voire même cool. Là, pour cette fois-ci, avec ses escarpins, elle fait vraiment un peu conne, quoi.
Oh, Jonathan, Michel, s'il te plaît. Fais attention à ton langage.
Non.
Non. Non, non, après, c'est vrai que je suis...
C'est vrai qu'elle avait une histoire, elle était un peu, comment dire, mal exploitée, très potiche. Ouais, je déteste le personnage de Romana. Je déteste Romana, première du nom. J'arrive vraiment pas avec ce personnage. Je la trouve insupportable. Et pourtant, j'adore Adric, c'est pour vous dire. Mais bon, je suis insupportable aussi, mais... Voilà, je sais pas, il y a quelque chose que je déteste dans sa personnalité. J'arrive vraiment pas à me faire au personnage et elle me, je ne profite du coup pas trop des histoires et je, là, c'est celle-ci, c'est celle que j'aime le moins jusqu'à maintenant. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé l'histoire. J'ai trouvé ça lent. La première partie, je me suis ennuyé comme ouais, c'est pas permis. Il y a que pendant les deux dernières minutes où il se commence à se passer quelque chose et là, il se passe quelque chose, boum, cliffhanger. Non, après, ça repart et ça part dans un truc totalement différent. Quand là, une chose intéressante arrive, ils mettent un autre truc qui n'a rien à voir, qui peut être intéressant aussi, mais à chaque fois, il est sous-exploité. Et du coup, ce qui fait qu'on a deux morceaux d'histoire, mais qui déjà l'une, enfin pour moi, c'est mon avis personnel, l'une ne va pas avec l'autre. J'étais vraiment très déçu. La qualité pour moi, je la vois pas. Il y a quand même de bons trucs. Il y a quand même l'humour de Tom Baker que moi j'ai trouvé très bon dedans. Il y a des choses assez drôles. Il y a des personnages plutôt bien. J'aime bien le personnage de la vieille dame là.
Rumford.
Ouais, que j'ai trouvé vraiment intéressante jusqu'à la fin, quoi. Jusque dans ces dernières lignes, jusqu'à la fin de la partie 4. Bah, c'est personnage très intéressant.
C'est un personnage qui sauve un peu l'histoire, je trouve.
Ouais.
Attends, parlons. Attends, ouais, je vais dire. Moi, je suis d'accord. Je rejoins l'avis de Benjamin que je trouve aussi que ça prend dans des longueurs. Ça commence trop lentement à démarrer.
Ça, c'est moi qui l'ai dit. Hein.
Et pour revenir à l'histoire de la vieille dame, il y a cette scène ahurissante où il y a les espèces de culte de druides là, où t'as la vieille mamie qui arrive à faire fuir une dizaine de mecs habillés en Ku Klux Klan avec un
vélo. Corps. C'est vrai.
Et avec Tom Baker qui dit « Est-ce que votre déesse se déplace à vélo ?» Blasphème.
On sent qu'il y avait un problème technique. À la base, elle devait arriver en trompe avec des flics dans des voitures. Ouais, au final, tu arriveras en trompe sur un vélo toute seule.
Bah, coupure budgétaire.
Et je crois que le problème, c'est plus. Enfin, je pense que c'est par rapport à la manière dont on est influencé par ce qu'on regarde actuellement. Bizarrement, moi, j'ai pas trouvé que c'était long, justement. Peut-être parce que j'ai vu plus de programmes de ce type-là, parce que j'ai vu plus la plupart des trucs de Neige au Nil, par exemple. Donc, je suis plus habitué à ce rythme-là. Donc, moi, ça me choque moins. C'est sûr que pour quelqu'un qui est habitué à regarder la nouvelle série, l'épisode fera lent. C'est un type d'histoire particulier, hein. C'est pareil, tout le monde ne peut pas aimer forcément Quatermass, surtout à notre époque, parce que ça fait très dépassé.
Non, mais là, ça vient pas du contexte. Le contexte, on a pu s'y habituer. En plus, on n'y est pas à notre coup d'essai par rapport aux épisodes de la série classique. Pour ma part, j'en ai vu quand même pas mal. Et le fait, je trouve que le rythme ne colle en rien avec ce que j'ai déjà vu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même dans la série classique, il y a un rythme particulier, un rythme peut-être lent, des problèmes de longueur. Mais là, ça devient vraiment trop visible et vraiment chiant. Je suis sûr que beaucoup de personnes n'auront pas mon avis. Eux ont trouvé un rythme parce qu'ils ont trouvé leur compte dans le personnage de Romana, qui est quand même assez important dans cette histoire. Le fait que moi, personnellement, je n'ai pas aimé le personnage de Romana, je pense que ça m'a gâché un petit peu l'histoire du rythme. Et vraiment l'histoire.
Oh, peut-être oui.
Je pense que mon point de vue se base sur le fait que je n'aime pas le personnage de Romana 1.
Bah, pour revenir sur Romana, moi je trouve que contrairement à l'épisode d'avant où elle s'était un petit peu affirmée à combattre, à prendre des décisions, là elle fait rien. Elle fait la potiche.
Ah, si, elle tombe d'une falaise.
Oui, ouais, c'est super. Ouais, mais
par Canine aussi. Hein,
et oui. Genre, elle va mourir. Il y a Canine qui arrive qui dit oh là là, je vais vous sauver. Y a le docteur qui est là. Oh non, non, hein, c'est lui qui m'a fait tomber de la falaise.
Quand elle est tombée de la falaise, il faisait jour. Quand il arrive, c'est le milieu de la nuit. Je veux dire qu'elle a quand même les bras, c'est Hulk.
Ouais, bah oui. En même temps, elle est pas humaine. Hein. Elle est pas humaine, c'est une
dame du temps. Je pense aussi que les scénaristes ne savaient pas forcément quoi faire avec Romana, le personnage. Et c'est finalement Lala Ward qui, par son caractère, affirmera le personnage. Douglas Adams aussi, peut-être. Je pense que là, c'est...
Bah, Douglas, Romana 2 n'a rien à voir avec la première du nom. Hein. La première est très, très hautaine, elle est très... je ne sais pas comment décrire le personnage.
C'est froide, quoi.
Oui, mais elle est censée évoluer. Enfin, ce que tout le monde me dit, dès la seconde histoire, elle évolue. Pour moi, elle a toujours pas évolué. Enfin, que très peu, quoi.
Bah, elle a évolué, elle est redescendue.
Ah non, elle a pas évolué, non. Elle a pas évolué du tout. Ça, il y a rien qu'à changer.
La première histoire a fait hautaine. Dans la deuxième, elle se libère un peu.
Non, elle reste hautaine dans la seconde.
Non, elle est un peu mieux.
J'ai pas dit qu'elle était plus hautaine. J'ai dit qu'elle s'affirme un peu plus. Mais et là, dans la troisième, elle fait potiche. Je sais pas, ils sont en train de tester tous les compagnons du docteur qui sont passés. Ils le foutent dans le roman.
C'est ça. C'est un peu ça.
Il me reste 4 minutes.
Ouais, c'est une.
Ah oui,
oui,
non, pour revenir, après les eaux grises, ces espèces de rochers, c'est vrai que moi j'aurais préféré un mec dans un costume en latex qu'un rocher qui glisse sur le sol.
Ils sont ah bon super, c'est non, ils font vraiment peur.
Les rochers vous font peur, vous?
Moi, ils me font super peur, ces rochers.
C'est le concept.
Ouais, moi c'est un caillou, quoi. C'est un gros caillou.
Non, mais attends, mais t'as vu la taille d'un caillou?
Un gros caillou qui glisse et qui défonce.
Non, mais t'es allé en Bretagne dans un cercle de pierre, t'as déjà vu la
taille de ces rochers? Je ne vais pas en Bretagne.
Ouais.
Il pleut.
Ah, normal.
D'un côté, c'est la première histoire où je vois Canine retourner sur le dos, quand même.
Ouais.
Avec des morceaux de trucs de papier coupés en morceaux.
Oui, j'aime bien la
chaleur,
c'est drôle.
C'est marrant.
Et ça, après, c'était très drôle, par contre.
Après, moi, je trouve vraiment que ça devenait palpitant, intéressant, c'est parce que peut-être c'est à ce moment-là où c'était drôle, c'est où ils vont dans le vaisseau qui est dans l'hyperspace, qui se trouve quelque part au-dessus des pierres, machin truc. Et avec le procès, je trouvais même marrant, j'aime bien les espèces de robots avocats, ordinateurs avocats, je sais pas ce que c'est deux petites lumières.
J'aime bien l'effet spécial, je trouve pas mal.
Et j'aime bien, il y a l'avocat du docteur qui fait « Oui, je vous défends. D'ailleurs, j'ai plaidé pour que vous mourrez rapidement et sans souffrance. » C'était assez drôle.
C'est rassurant.
Ouais, non mais j'ai trouvé en plus
et,
que...
Et il rajoute qu'il a fait sa plus belle plaidoirie en plus.
J'ai trouvé... c'est vraiment très moyen. On va pas.
Moi, je trouve la quatrième partie est vraiment ça gâche tout. Tout l'épisode qui avait déjà du mal à.
Ah bon non. Moi,
sur le plan technique, il faut remarquer qu'il y a cet épisode-là est assez intéressant parce que déjà les juges, c'est un effet tout bête, hein, c'est des lampes au bout d'une tige superimposées à l'image. Mais vous avez pas remarqué que quand ils marchent dans le vaisseau, il y a un bruit métallique et pas un bruit de studio type champ bois ou ainsi de suite.
Non,
il n'a pas fait attention.
Vous n'avez pas fait gaffe. Bon, réécoutez l'épisode, enfin revoyez l'épisode et vous verrez en fait que quand ils sont dans le vaisseau, les bruits de pas n'ont pas le même son que dans n'importe quel autre vaisseau de la série. Ils ont un vrai son. Pourquoi ? Parce que l'ingé son, c'était en fait démerdé pour mettre des micros sous le décor. Ce qui donne cet effet de résonance, en fait. Contrairement à tous les autres épisodes où, ils filmaient banalement avec la prise de son pour les acteurs simplement. Et, je trouve d'ailleurs que c'est justement l'un des plus gros défauts de toute la série, classique. C'est que, ça pouvait pas faire autrement. C'est que, au niveau musique, il y a ce qu'il faut. Au niveau effets spéciaux, il y a ce qu'il faut pour l'époque. Mais au niveau son, il y a quasiment jamais de son rajouté pour améliorer l'atmosphère. Par exemple, il y a pas de son métallique quand il marche dans un vaisseau et ainsi de suite. Il y a pas d'effet sonore rajouté.
Alors,
vraiment l'enregistrement studio.
Alors Benjamin, qui lui malheureusement a des enfants, hein, qui a une fille, une petite fille, qui est en train de convertir à Doctor Who, il va devoir aller s'en occuper. Donc il va devoir nous laisser dans quelques instants. Du coup, est-ce que tu veux nous donner une note par rapport à l'épisode et nous dire pourquoi tu as donné cette note?
Je vais avoir du mal à noter cet épisode par rapport
à... Tu te débrouilles.
Je sais. Et donc, mais en fait, je vais lui mettre la même note, un petit 5,5.
5,5?
5,5 qui est une très mauvaise note, je sais.
Je vais lui mettre une pire note.
Moi je garde 5,5 parce qu'il était pas mauvais, mais je sais pas, ils ont eu du mal à remplir l'épisode, je trouve. Il se passe rien dans l'épisode.
Oui, c'est vrai que c'est assez lent. Ok. Bon, en tout cas.
Et pour revenir sur ce que disait Nathan, c'est pas par rapport à un rythme de telle ou telle série, c'est juste que dans les autres, ils essayent de faire du remplissage. Parfois, ça se voit. Et là, franchement, ils ont pas essayé. Ils font des monologues qui servent à rien. Ils se passent des.
Il y a des scènes, c'est vrai qu'il y a des scènes, tu sens que c'est pour.
Ils tirent dessus pour allonger l'épisode.
la scène du corbeau, là, où t'as un gros plan sur un corbeau, elle peut durer 2 secondes, elle dure 15 secondes, quoi.
C'est vraiment...
Ouais.
Mais sinon, l'épisode était... Il repartait bien à la fin du deuxième épisode de l'arc, et puis tout d'un coup, je sais pas, au quatrième, ils sont partis dans autre chose que moi, je n'ai pas aimé du tout.
Bon, Benjamin, bon, en tout cas, merci d'être venu.
Voilà,
bon, Benjamin a décidé de nous quitter, tu reviens demain, j'espère.
Mais bien sûr.
Non, c'est une référence à... Laisse tomber. On se comprend. Bon, voilà. Allez, Benjamin, au prochain Gallicast.
Au revoir.
Pour toi.
Salut.
Bon bah du coup on se retrouve en équipe réduite pendant que Benjamin vient de nous dire au revoir et de nous abandonner lâchement. Voilà, donc il nous reste avec nous. Dusty, t'es toujours là?
Ouais, la connexion merde un peu, mais...
Oui, parce qu'en plus il y a de l'orage, c'est bien. On a l'impression que les Gallicas sont tournés en Afghanistan alors que pas du tout. C'est très très bien.
Bon, on est sur batterie de voiture. Ouais. Et il y a quelqu'un qui pédale derrière moi pour pouvoir faire fonctionner mon ordi.
Exactement. En plus t'es en Belgique, donc c'est tout à fait logique. Et alors je vais avoir des problèmes avec les Belges, surtout que Marie, déjà tu te souviens à l'époque où elle voulait m'étrangler, je pense.
Elle veut
savoir
t'étrangler.
C'est vrai? C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle vient à Paris, il y a une petite photo à m'étrangle. Faudrait qu'on les mette à disposition des gens d'ailleurs. Donc voilà, alors Dusty, ton avis général sur l'épisode, peut-être une note aussi?
Moi je l'aime bien cet épisode, donc je lui mettrais bien 8 en fait.
Pour quelle raison?
Tout ce que j'ai dit, les monstres, moi je les trouve vraiment vraiment flippants. J'ai trouvé cette idée de le coup des druides, des cercles de pierre. L'archéologue Amelia Rumford, elle est génialissime. Romana, moi je la trouve pas si terrible que si mauvaise que ça, c'est pas non plus le rôle du siècle, mais non, c'est vraiment un épisode que j'aime bien. À la limite, vraiment la partie qui me gonfle un peu, c'est la longueur du procès dans le vaisseau, quoi. Mais sinon, c'est vraiment un épisode que je trouve un peu palpitant, quoi.
Ok, je vais lire, avant que Michel et Jonathan donnent leur avis, je vais lire quelques avis de fans de la page Doctor Who Classique sur cette histoire. Le premier, bon, on va commencer par l'avis de... On va commencer par l'avis de Manon, parce que c'est l'avis le plus long. Manon Wuvian, que vous avez l'habitude, la fameuse, celle qui fait les sphères, qui est... Dan Freeman récemment, lui a aussi, donc, de Minister of Chance, l'a retweeté, lui parle donc sur Twitter, et du coup, elle est comme une folle en ce moment, on va dire que c'est son heure de gloire. Encore une raison, elle se la pète, quoi, voilà. Non, je rigole. Bon, en tout cas, Manon, on te fait un coucou, et je vais lire ton avis. Bonne histoire, surtout dans la première moitié. J'aime beaucoup le professeur Rumford, personnage bien fait, qui arrive à faire face à la situation. Alors que Romana se rapproche plus du rôle de curieuse dans cet arc, totalement, elle sert à rien. J'aime bien les pierres vivantes, même si c'est parfois absurde à certains moments. La deuxième moitié est moins palpitante. Vivien me fait plus flipper sous la forme humaine que sous sa couche de gris paillette. Les Megara sont drôles, mais apportent peu, voire pas de suspense. Vivien sert plus de décoration au procès qu'à autre chose. Bon épisode tout de même. 7,5 sur 10 pour moi. Alors, il y a Juliette de Césillon qui a donné la vie à travers celui de Thierry Bertrand. Canine qui oublie les informations sur le tennis. J'ai trouvé ça épique. Le début était ennuyeux. J'ai cru qu'ils allaient rester dans ce champ à parler pendant des heures. Ouais, là par contre, je suis totalement d'accord. Il s'est absolument rien passé pendant la première partie, sauf à la fin. Aucun suspense, scénario quasiment inexistant. Pourquoi a-t-il fallu attendre la partie 3 pour que ça devienne intéressant? J'ai pas eu le temps de regarder les 15 dernières minutes, c'est dommage. Et je pense pas que je prendrai le temps de le faire. Cet épisode ne restera pas dans ma mémoire. Ce n'est pas un mauvais épisode en soi, mais il se passait pas grand chose. Pour l'instant, mon personnage préféré de la saison 16 est Canine. Bref, je pense que je lui donnerai un 5,5 sur 10. Maintenant, on va passer à l'avis de Michel. T'en penses quoi, Michel, alors, de cette histoire?
Alors moi, je vais lui donner une note de 6 sur 20. Je vais dire, il est dans la moyenne. Après, ouais, faut aimer les gros cailloux, on va dire. Ouais, vraiment, ouais, non, je vais lui mettre un bon 6 sur 20. 6 sur 10, pardon. Non, ouais, épisode moyen qui se laisse regarder, mais qui n'est pas vraiment folichon, on va dire. C'est pas ce qu'ils ont fait de meilleur. Voilà.
Ok, Jonathan, avant de donner ton avis, il y a deux autres petits avis, je vais les dire rapidement. Finch, c'est Julien, Docteur Finch, qui dit « Un peu loin à mon goût, mais un arc avec Romana 1 que j'aime tout de même. L'histoire est plutôt sympa dans l'absolu. » et Arthur McCoy qui dit de Son of Blood, j'ai bien aimé, même si la saison en elle-même, je l'ai trouvé un peu fade. Enfin, j'aime bien le procès avec les deux boules de lumière et les ogris. Parce que c'est drôle de faire comme ennemi des cailloux géants qui servent à rien. On est d'accord. Jonathan, ton avis sur l'histoire, s'il te plaît?
C'est mon épisode préféré de toute cette saison-là. Donc, globalement, même avis que Dusty. Donc, ouais, je vais dire oui, ceci. Je vais déjà expliquer vraiment pourquoi je l'aime.
Pour toi, parce que c'est la meilleure histoire de la saison.
En fait, pour moi, le meilleur moment de toute la saison, c'est le final. Enfin, la toute dernière scène écrite par Douglas Adams avec la clé du temps.
N'en dis pas plus, parce que je regarde au fur et à mesure. Du coup, j'ai toujours pas vu. Hein.
Tu verras, c'est vraiment le meilleur truc. Et tu sens que c'est Douglas Adams, quoi.
Ok.
Non, The Stone Rose, moi, j'avoue que j'aime ce genre d'histoire qui semble kitsch. C'est parce que j'aime Nigel Neal. Il a créé par exemple The Stone Tapes, qui est enfin disponible en DVD facilement, où il revisite les maisons hantées en leur donnant une explication scientifique. C'est vrai que dans l'épisode, le seul regret que j'ai avec cet épisode, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées au final, parce que c'est ce côté magique. Moffat adore, je suis sûr. Ta gueule, c'est magique. Mais sinon, je trouve que génial l'idée des pierres tueuses, quoi. C'est ça qui m'éclate. Ça fait kitsch à l'image. Je pense que de toute manière, on aurait toujours du mal à rendre ça sérieux à l'image. Mais je pense qu'en roman, ça sortirait très très bien, sans trop de problèmes. Et c'est le genre d'histoire que je kiffe.
Ok, moi mon avis personnel sur l'histoire, mais j'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs, t'as pas dit quelle note tu lui donnerais, si? J'ai pas entendu.
Quelle note tu lui donnerais?
8? Ok.
8.
Alors moi, mais vraiment pas du tout d'accord. J'ai vraiment pas aimé. Et je me suis, ennuyé. J'ai vu en plus les dernières parties avec Michel. On n'avait pas du tout le même avis, quoi, sur l'histoire. On n'avait pas le même avis. Michel, le temps passait nickel. Moi, limite, je m'endormais. C'était vraiment moyen. Moi, je lui donnerais pas les... Enfin, vous avez été vraiment trop gentil sur une histoire. Pour moi, c'est vraiment pas la meilleure. Jusqu'à maintenant, c'est la pire. Moi, je vais lui donner la note de 3,5. Parce que je l'ai vraiment trouvé abominable. J'ai pas aimé. C'est pas méchant. Non plus du Demon Shining Time. Ouais. C'est pas tout ça, mais j'ai vraiment pas aimé. C'est encore une fois mon avis personnel. Je n'aime toujours pas le personnage de Romana. Cette histoire ne m'encourage pas du tout à aimer le personnage. Donc c'est pour ça que je lui ai donné cette note, mais vraiment très basse. J'ai vraiment pas du tout aimé. Donc voilà, quoi. Sinon, peut-être quelque chose à rajouter, Dusty?
Non, pas... Vraiment, moi, j'ai vraiment un épisode qui me plaît. Mais il est vraiment particulier. Il sort du cadre des autres épisodes de Doctor Who.
Ouais, mais...
c'est vraiment une question de goût, les goûts, les couleurs.
Moi, je conseillerais de regarder l'épisode et de faire votre propre avis.
Effectivement, mais... C'est ça, à chaque fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est pour ça qu'on récupère les avis des gens, parce que tout le monde peut donner son avis, après ce sont nos avis personnels. Et voilà, quoi, il y a le pour et le contre, après ce genre de se faire leur avis en regardant l'histoire. Donc, est-ce que vous, pour finir, c'est une histoire que vous conseillez, Dusty?
Oui, moi c'est une histoire que je conseille.
Michel?
Oui, je conseillerais cette histoire, mais pas comme étant la première à regarder
dans
sa classique.
Oui, non, mais ça c'est logique. Vu qu'en plus elle est dans la saison qui tout à l'heure. Jonathan?
Sincèrement, si tu conseilles cette saison, regarde toute la saison. Ouais. Pas que cette histoire. Parce
non,
que
mais
tu
même
comprends
moi,
rien.
Même moi qui n'ai pas aimé l'histoire, je conseille aux gens de regarder cette histoire. Avec du thé, une petite lecture à côté ou quelque chose, en fait. Ça se trouve, ça va passer plus facilement, du coup. Donc, non, vous pouvez la regarder. Je la conseille quand même parce que c'est vraiment moi, je pense, qui n'ai pas du tout accroché et que l'histoire, par beaucoup de gens, est très facile à regarder. Donc, je vous la conseille quand même.
Moi, ce que je conseille aux gens à côté, c'est que si vous avez aimé cette histoire, enfin disons que si ce type d'histoire vous intéresse, je vous conseille vivement de regarder tout ce que Nigel Neal a écrit, enfin réalisé à l'image. Faut pas oublier qu'il a écrit le scénario d'Halloween 3. Hein. Enfin, il a écrit le premier scénario, il a été réécrit entre temps. Regardez ce que Nigel Neal a fait, surtout les Quatermass qui est très dur à avoir, donc téléchargez-le parce que le DVD est extrêmement rare, enfin surtout le DVD anglais, parce que là, le DVD australien on peut le trouver à la rigueur encore assez facilement. Regardez aussi The Stone Tape, parce que c'est pas le même type d'histoire, mais c'est encore une fois un concept qui paraît con à la base, mais qui est en fait absolument génial. Bref, c'est typiquement de la science-fiction britannique telle que je l'aime.
Ok, bon bah, je pense qu'on a un peu tout dit sur cette histoire. C'est tout pour ce Gallicast, et que dire d'autre à part Vavoom ?
Vavoom !
Vavoom ! Et moi je repars sur mon Dodan pour la semaine prochaine.
J'ai déposé la clé.
C'était le Gallicast. Vavoom !
J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé la clé à l'endroit où tu sais. J'ai préféré partir, pardonne-moi.
Dans l'épisode précédent,
Tintin, je vous attrape enfin. Vous allez voir, personne ne s'enfuit jamais avec mon fantôme Boulos.
Tintin, ta dernière heure a sonné.
Pris au piège.
Qu'est-ce qui se passe?
Monsieur Mustafopoulos, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Monsieur Tintin. Je dirais même plus, vous êtes arrêté pour avoir kidnappé, enlevé contre sa volonté, Tintin.
Comment avez-vous su que Mofatopoulos m'avait enlevé?
Eh bien, figurez-vous, qu'on était invité à la grande soirée de Moumoutopoulos et qu'on cherchait les toilettes, on a entendu du bruit, on est descendu, et nous voilà. Je dirais même plus, nous voici devant vous.
Quelle chance! Vite! Libérez-moi et livrez ce malfrat aux autorités.
Très bien, monsieur Tintin. Je dirais même plus, nous nous exécutons sur le champ.
Milou! Tu as raison, Milou. Ce tableau qui était là depuis le début me semble maintenant bien étrange. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas remarqué plus tôt. J'ai l'impression d'être dans une sorte d'histoire où l'auteur ne sait pas trop quoi mettre dans le scénario. Je vais donc regarder ce tableau quelque peu banal, mais qui cache sûrement un message au dos. Tiens ! Un message au dos. Je ne m'y attendais vraiment pas. Rendez-vous très bientôt dans le Gallicast, qui sera consacré à The Android of Tara, de la saison Key to...